Radicaux Libres. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres, dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission Radicaux Libres, tiens on l'a déjà dit, sur le site radioalpa.com. On aurait pu vous parler de la dictature en marche, oui il va bien falloir appeler les choses par leur nom à un moment. Les idées de gauche, non je n'ai pas parlé de la gauche moderne, du social-libéral Raphaël Glucksmann qui fut il y a longtemps, c'est une erreur de jeunesse de sa part. Bon, il avait quand même 30 et quelques années. Le Raphaël Glucksmann en question a été l'un des candidats de Alternative Libérale. Oui, c'est un bon gros libéral, très très pro-business. Mais là, tout à coup, il se découvre des velléités de gauche. Alors, bah, de là à le penser socialiste, déjà qu'au PS, c'est difficile. Eh ben non. Raphaël Glucksmann n'est pas un de nos camarades, comme disent un certain nombre de tribunes. Donc les idées de gauche, pas celles de Raphaël qui sont portées par le Parti Socialiste en France, ni par celles qui sont portées par Raphaël Glucksmann, ces idées de gauche n'ont pas le droit de citer dans la France actuelle. Pourquoi ? Ben parce que les autorités administratives, préfectures en tête, passent leur temps à empêcher l'expression d'une parole de gauche, en clair anticapitaliste. Cerise sur le gâteau du moment, une parole pro-palestinienne qui est décrite à chaque fois comme antisémite, dans un détournement historique, par l'extrême droite dont les thèmes et les mots sont repris par les nationalistes libéraux au pouvoir. À propos du national-libéralisme, je vous conseille de lire le dossier de la revue Politis qui est apparu en mai 2023 et qui montrait justement les faits objectifs, qui montre une tentation nationale libérale pour ceux qui sont au pouvoir dans notre beau pays des droits de l'homme. Cette semaine, la cerise sur le pompon fut la condamnation d'un syndicaliste CGT du Nord pour apologie du terrorisme. On peut se dire que ça va loin, apologie du terrorisme, c'est-à-dire que on dit des choses positives et même on encourage ceux qui liront les documents à faire du terrorisme. Dans un tract début octobre, ce syndicaliste CGT du Nord a écrit à propos des actions du Hamas, je cite, « Les horreurs de l'occupation illégale se sont accumulées depuis samedi, donc samedi 7 octobre, elles reçoivent les réponses qu'elles ont provoquées. » Clairement, le propos manque de subtilité, il y a un certain nombre d'étapes qu'il aurait peut-être dû prendre pour éviter un tel raccourci. Mais de fait, la haine appelle toujours la haine et maltraiter des populations ne peut que donner des résultats désastreux, en particulier quand de part et d'autre, la religion s'en mêle. La mort de plus de 1100 personnes lors des attaques du 7 octobre, dont une majorité de civils, ne peut pas être résumée par un « et là c'est moi qui grossis le trait », ils l'ont bien cherché. Voilà en quelque sorte ce qui peut être lu dans la phrase du tract du syndicat CGT du Nord à propos de ce qui s'est passé le 7 octobre et les jours suivants. Mais après, est-ce qu'on peut considérer que c'est de l'apologie du terrorisme ? Eh bien, pour les juges du tribunal correctionnel, c'est oui. Notamment parce que le Hamas est sur la liste officielle des organisations terroristes émises par l'Union européenne. Si Tsahal, c'est-à-dire l'armée israélienne, agit de la même manière, en tuant de manière indiscriminée des civils en quantité, et que l'association nationaliste jeunesse française juive, qui est à l'origine de la plainte contre 41 personnes pour apologie du terrorisme, et notamment contre le syndicaliste CGT, si cette association nationaliste jeunesse française juive se fend d'un tweet pour affirmer que l'action de l'armée israélienne est une juste réponse à l'attaque du Hamas, alors il n'y a pas apologie du terrorisme. Et pourtant, étant donné que Tsahal n'est pas une organisation terroriste au regard du droit français, il ne peut pas y avoir d'apologie du terrorisme si on défend l'action de l'armée israélienne qui, de manière indiscriminée, puisque ça fait partie de sa stratégie, eh bien tue un peu hommes, femmes et enfants. Au regard des faits, le Hamas et l'armée israélienne agissent de concert en ciblant n'importe quel civil et en faisant prisonnier n'importe quel civil. Deux extrémistes finalement se combinent dans ce conflit pour que rien ne cesse. En l'occurrence, pas le conflit, chacun y ayant un intérêt. Je parle là du Hamas, de l'armée israélienne et des dirigeants israéliens actuels. Puisque, par exemple, pour Benjamin Netanyahou, tant que la guerre continue, il n'a pas de problème avec la justice pour corruption. Et puis pour tous ceux qui proposent la fin du reste du monde, tant qu'il n'est pas juif, je veux dire par là les suprémacistes juifs qui sont au pouvoir en Israël, oui, il y en a dans le gouvernement israélien, je vous laisse aller chercher les biographies de chacun. Eh bien, pour eux non plus, il ne faut pas que ça cesse, puisqu'il y a un intérêt à éradiquer le reste du monde. Alors, ces deux extrémistes qui se combinent dans ce conflit ont peu de chances de le limiter. C'est pourquoi il faut qu'il y ait dans le monde entier, que ça continue, des manifestations pour faire pression, pour que le sujet ne soit pas enterré sous les tombereaux d'écume qui occupent les médias. La petite phrase qui appelle un commentaire de petite phrase sur les commentaires de petite phrase. Alors, dans le monde entier, des prises de parole, des conférences, des événements rappellent les données du sujet, malgré les interdictions qui ont lieu notamment en France pour bon nombre d'interventions, surtout si elles viennent de la gauche. Samedi 20 avril à 14h au Mans, rendez-vous Place de la République pour à nouveau réclamer l'application du cessez-le-feu décidé par les Nations Unies.
J'arrête.
C'est la minute des enfants. Aujourd'hui, le F, F, F.
Le F comme fin. Même s'il se produit chaque jour sur la planète énormément plus de nourriture qu'il en faut pour nourrir chaque personne, il est vrai que la FAO nous le dit régulièrement, des gens ont faim parce qu'une grande partie de ce qui est produit est gaspillé par les entreprises et les gouvernements pour favoriser les profits des plus riches. La faim cause un grand nombre de maladies, nuit à la croissance des enfants et peut mener à la mort. Dans le capitalisme, la terre n'appartient pas à celles et ceux qui pourraient y cultiver des céréales, des légumes et des fruits, mais plutôt à celles et ceux qui ont assez d'argent pour la payer. Malheureusement. Pourquoi vous parlez de la faim ? Parce que la faim touche, d'après l'ONU, un quart de la population de Gaza qui a survécu aux bombardements et aux actions de Tsahal. Un quart. C'est n'importe quoi, c'est grave. Et surtout quand on voit que quand il y a des distributions de nourriture, il peut y avoir également des actions de l'armée. Un petit drone, ça a l'air de rien comme ça. Et puis un petit missile, ça coûte pas si cher. Certains sont donnés par les États-Unis. Alors dans le monde entier, ça continue. C'est pourquoi il faut être présent dans les différentes manifestations qui défendent le cessez-le-feu. N'oublions pas que les civils israéliens sont aussi les premières victimes de ce combat. À propos de la manifestation contre le racisme qui avait été interdite par la préfecture de police de Paris jeudi 18 juin, pourquoi j'ai dit 18 juin ? C'est l'appel. Jeudi 18 avril, l'interdiction est cassée par la justice administrative qui y voit, je cite, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation. Le préfet, de Paris, là, monsieur Nunez, il fait pas que des trucs légaux. Non, il fait pas que des trucs légaux. Il fait aussi du illégal. Et justement, là, une atteinte grave et manifestement illégale. Il le savait exactement, que c'était illégal. Mais bon, puisque l'idée, c'est surtout de favoriser la droite et l'extrême droite, s'il y a un truc de gauche qui se fait, allez hop, on va l'interdire, même si on sait que c'est illégal. Comme d'habitude, la préfecture de police avait invoqué la présence d'éléments anti-républicains et des troubles à l'ordre public, mais aussi la mobilisation des forces de l'ordre. On n'en aura pas assez, parce que ce dimanche, il y aurait aussi un match de foot PSG Olympique Lyonnais. La beauté des valeurs sportives qui nécessitent toujours autant d'uniformes pour éviter que des supporters de chaque camp se foutent sur la tronche pour une histoire de couleur à défendre. C'est beau le sport. Donc dimanche 21 avril, la population aura le droit d'exprimer son dégoût de la hiérarchie raciale. Elle aura également le droit d'exprimer son dégoût contre l'islamophobie et pour la défense de tous les enfants. Donnons un avenir à tout cela là, qui se rendent pas bien compte dans quel monde ils sont nés. En pleine rue, ça aura lieu en pleine rue le 21 avril entre Barbès et République. Le rendez-vous était donné à 14h à Barbès. Comme ça a eu lieu à Foix en Ariège jeudi 18 avril, comme à Saint-Brieuc le 21 avril. Qu'est-ce qui se passe donc le 21 avril à Saint-Brieuc? Eh bien, le Front commun antifasciste appelle à une manifestation régionale 21 avril 2024 contre l'extrême droite et pour la justice sociale et la solidarité. Autant vous dire que quand on dit contre l'extrême droite et pour la justice sociale, on est à deux pôles totalement, on est bien dissociés. L'extrême droite et la justice sociale, c'est totalement incompatible. Alors qu'avec les valeurs du libéralisme et l'accumulation de profits, pas de souci, mon gars. Des manifestations comme ça, il y en a une, par exemple, à Béziers, une manifestation départementale mardi 23 avril. Partout en France, en fait, des manifestations locales ont lieu régulièrement contre les idées de classement des populations selon une échelle de plus ou moins d'humanité. Et les racistes se croient les plus humains. Les racistes gagnent du terrain dans les têtes, usant et abusant de démagogie et de populisme et de son allié objectif, l'extrême centre, hein, qui n'a aucun problème à de temps en temps faire des petites saillies contre les soi-disant étrangers qui sont soi-disant la cause de tous nos maux. Je rappelle que les étrangers sont les personnes qui habitent de l'autre côté d'une frontière qui a été créée artificiellement par des êtres humains qui ont un intérêt à essayer de conserver le pouvoir sur un espace, alors que finalement on fait tous partie de la même humanité. Ce serait bien de s'en rendre compte à un moment. Alors au quotidien, puisque ce quotidien est difficile, la démagogie et le populisme fonctionnent d'autant plus. Mais ne nous y trompons pas, les racistes et les partis qui les portent ne sont pas des défenseurs du peuple. Cette semaine, le MEDEF auditionnait 7 têtes de liste pour les européennes. Quels que soient les partis, hein, que ce soit par exemple pour Reconquête ou pour le RN, dans les discours, on a entendu la croissance. La croissance, la croissance, la croissance, la croissance. En gros, la croissance du produit intérieur brut, voilà le but à atteindre. Les idées fascistes et le grand patronat n'ont aucune difficulté à cohabiter. Alors toi, camarade, qui te crois protégé parce que bientôt les racistes auront le pouvoir, finalement tu resteras de la chair à patron, sache-le. On aurait pu vous parler des activités de plein air qui reprennent plus activement encore avec l'arrivée des beaux jours. Sur l'A69, par exemple, malgré le bruit et la fureur développés par les forces de l'ordre contre les écureuils à Sahel, au mois de février et mars. Hein, je vous rappelle quand même, début d'incendie au pied des arbres où étaient perchés les écureuils. Les écureuils, c'est le surnom que l'on donne à ceux qui construisent des cabanes dans les arbres et les habitent pour éviter que ces arbres soient abattus. Ça se dit ça, soit abattu. Allons. Donc début d'incendie au pied des arbres, oui, ça amuse bien les flics. Hein. Bruit incessant pour empêcher le sommeil, c'est assimilé à de la torture. Non-ravitaillement des écureuils pour attiser la faim et la soif. C'est joli, hein. Eh ouais. Ce sont les forces de l'ordre en France actuellement. Eh bien, malgré ce qui s'est passé en février et mars, les écureuils sont toujours à Saex. Certains sont descendus, d'autres sont montés. Les ZAD se multiplient également sur le tracé, il y en a deux de plus, notamment pour obliger les entreprises et les autorités intéressées par la destruction des milieux de vie à respecter au moins les règles que leurs camarades de classe sociale qui siègent au Parlement ont fixées. Pour en savoir plus sur le projet A69 et les alternatives à ce projet de l'autoroute A69, allez donc voir sur uneautrevoie.org. wordpress.com, uneautrevoie.org.wordpress.com, et puis également sur La Voix est libre, lvel.fr. Et si vous êtes à Toulouse, dimanche 21 avril, et pourquoi pas, à 14h, manifestation contre l'A69 et son monde, départ en haut des allées Jean Jaurès. Pour ceux qui habitent à Toulouse, vous voyez exactement où c'est. Pour vous tenir au courant de l'action des collectifs qui luttent contre les délires routiers qui font gagner quelques minutes à des mercantis et avides de profit, laderoutedesroutes.org, laderoutedesroutes.org. On aurait pu vous parler de la propagande pour le grand événement de nationalisme sportif. Cette semaine, le terrain médiatique fut largement occupé par l'allumage de la flamme olympique en Grèce et le début de son voyage vers Paris. Non, non, ne chante pas. Et bien sûr, le compte à rebours qui semble s'accélérer puisqu'on a franchi la barre symbolique des 100 jours avant les Jeux Olympiques et Paralympiques. Les mises en examen pour corruption, le saccage de nombreux lieux encore dévolus à la nature qui maintenant ont été bétonnés, les morts et blessés sur les chantiers de construction des infrastructures liées aux Jeux Olympiques et Paralympiques, l'expulsion des étudiants pour loger les flics et les autres, l'exploitation des bénévoles, j'en passais du pire, ah ben tout ça est oublié. Non, tout ça est oublié au profit d'une fête. Ah ouais, ça va être une fête. Bon, c'est surtout une fête pour les richoux qui pourront se payer les billets et les hébergements. Alors bien sûr, les médias, qui ont un intérêt à éviter les sujets qui concernent vraiment les populations, nous présentent des spectateurs peu fortunés, j'ai entendu ça cette semaine, qui sacrifient leurs économies pour participer à la grande fête du nationalisme sportif. Mais en ce moment quand même, l'opposition s'organise. Plus d'infos sur saccage2024.noblogs.org. saccage2024.noblogs.org. Mais finalement, on a préféré vous parler de dissonance cognitive dans la presse municipale. Alors, puisqu'on parle de dissonance cognitive, commençons par une petite définition. D'après un certain Léon Festonner, qui a créé le concept en 1957, la dissonance cognitive, c'est un état de tension mentale éprouvé lorsqu'il y a un conflit entre nos pensées, nos valeurs et nos actions. Le prix de la dissonance cognitive pour le mois d'avril revient bien sûr aux médias audiovisuels, qui parlent de la catastrophe annoncée du dérèglement climatique, en montrant des gens heureux sur la plage. Et dans les parcs, parce que les températures du début avril ressemblent à des températures estivales. C'est donc la fête en attendant la canicule. Ce mois-ci, les télés sont ex aequo avec Le Mans, ma ville. Le magazine de propagande municipale, qui donc le magazine de la ville du Mans, Le Mans, ma ville, qui s'appelle maintenant Au Mans, avec le tréma là sur le côté. Mais j'ai toujours pas compris ce que ça voulait dire exactement. Dans ce Au Mans du mois d'avril, eh bien en couverture, on a un grand dossier intitulé « Ensemble, faisons le pari des mobilités douces » et surtitré « Vélo ». Ensemble, faisons le pari des mobilités douces. Oh bah, devinez ce que l'on voit dessus. Deux parents en couverture et deux enfants, une fille et un garçon. Voilà, tout ce beau monde est bien blanc, bien tout va bien. Hein, c'est vraiment la famille parfaite. Eh bien, ils sont tous souriants, à l'arrêt, sur l'aménagement pour cyclistes situé tout en bas du tunnel, sur leurs quatre vélos. À l'intérieur du magazine, 6 pages sur le vélo. Un peu de pub pour des entreprises de réparation de vélos, du secteur marchand hein, et du tiers secteur de l'économie. Sociale et solidaire. Bon, rien sur Cyclamen, où vous réparez vous-même votre vélo sous la férule d'animateur, un lieu qui favorise donc l'autonomie. Et justement, le vélo est véritablement l'outil de locomotion de l'autonomie. Je ne parle bien sûr pas des vélos assistés par un moteur électrique, puisque là, ben, l'assistance fait que vous êtes beaucoup moins autonome. Les moteurs limitant de fait notre autonomie. Mais ne boudons pas notre plaisir de voir mis en avant la perle du transport dans le magazine municipal. Ne boudons pas aussi notre plaisir et allons plus loin. C'est l'occasion de rappeler les pages parues dans Énergie et équité, un livre de 1975 écrit par Ivan Illich, un prêtre défroqué, bah déjà ça va, pour avoir un peu trop défendu la théologie de la libération et pas assez l'Église comme institution. Au Moyen-Âge, il aurait été défini comme hérétique et heureusement, l'époque que nous vivons est beaucoup moins violente, donc il a juste été viré de l'Église. Il a donc écrit des livres comme Énergie et équité, dans lequel il critique notamment la vitesse qui demande des investissements et le gaspillage d'une quantité industrielle de matières premières et d'énergie pour satisfaire une minorité aux dépens des besoins du reste de la population. On est en 75 et déjà, bah ça on le sait, hein, il y a des gens qui profitent lâchement pour accumuler du pouvoir, de la puissance aux dépens des autres. Eh oui, c'est déjà le cas à l'époque. La bagnole individuelle pour tous en prend un peu pour son grade dans le bouquin justement Énergie et équité et son caractère contre-productif. C'est d'ailleurs Illich qui utilise le premier l'expression. Le caractère contre-productif de la bagnole individuelle est démontré par le menu. À l'inverse, Illich explique que le pneu et le roulement à billes ont permis à l'humanité d'inventer une petite merveille pour se déplacer. Je cite « L'homme peut se déplacer sans l'aide d'aucun outil. Pour transporter chaque gramme de son corps sur 1 kilomètre en 10 minutes, il dépense 0,75 calories. Il forme une machine thermodynamique plus rentable que n'importe quel véhicule à moteur et plus efficace que la plupart des animaux. Proportionnellement à son poids, quand il se déplace, il produit plus de travail que le rat ou le bœuf et moins que le cheval ou l'esturgeon. Avec ce rendement, il a peuplé la terre et fait son histoire. À ce niveau, les sociétés agraires consacrent moins de 5% et les nomades moins de 8% de leur budget de temps à circuler hors des habitations ou des campements. À bicyclette, l'homme va de 3 à 4 fois plus vite qu'à pied, tout en dépensant 5 fois moins d'énergie. En terrain plat, il lui suffit alors de dépenser 0,15 calories pour transporter 1 gramme de son corps sur 1 kilomètre. La bicyclette est un outil parfait qui permet à l'homme d'utiliser au mieux son énergie métabolique pour se mouvoir. Ainsi outillé, l'homme dépasse le rendement de toutes les machines et celui de tous les animaux. Un peu plus loin, il continue. Un vélo n'est pas seulement un outil thermodynamique efficace et ne coûte pas cher. Malgré son très bas salaire, un Chinois consacre moins d'heures de travail à l'achat d'une bicyclette qui durera longtemps qu'un Américain à l'achat d'une voiture bientôt hors d'usage. Les aménagements publics nécessaires pour les bicyclettes sont comparativement moins chers que la réalisation d'une infrastructure adaptée à des véhicules rapides. Pour les vélos, il ne faut de routes goudronnées que dans les zones de circulation dense. Et les gens qui vivent loin d'une telles routes ne sont pas isolées, comme ils le seraient s'ils dépendaient de trains ou de voitures. La bicyclette élargit le rayon d'action personnel sans interdire de passer où l'on ne peut pas rouler. Il suffit alors de pousser son vélo. Le vélo nécessite une moindre place. Là où se gare une seule voiture, on peut ranger 18 vélos. Et l'espace qu'il faut pour faire passer une voiture livre passage à 30 vélos. Pour faire franchir un pont à 40 000 personnes en une heure, il faut deux voies d'une certaine largeur où l'on utilise des trains. 4 si l'on utilise des autobus. 12 pour des voitures et une seule si tous traversent à bicyclette. Le vélo est le seul véhicule qui conduise l'homme de porte à porte, à n'importe quelle heure et par l'itinéraire de son choix. Le cycliste peut atteindre de nouveaux endroits sans que son vélo désorganise un espace qui pourrait mieux servir la vie. La bicyclette permet de se déplacer plus vite, sans pour autant consommer des quantités élevé d'un espace, d'un temps ou d'une énergie devenue également rare. Chaque kilomètre de trajet est parcouru plus rapidement et la distance totale franchie annuellement est aussi plus élevée. Avec un vélo, l'homme peut partager les bienfaits d'une conquête technique sans prétendre régenter les horaires, l'espace ou l'énergie d'autrui. Un cycliste est maître de sa propre mobilité sans empiéter sur celle des autres. Ce nouvel outil ne crée que des besoins qu'il peut satisfaire. C'est ce qu'on demande à un outil en gros. Et c'est tout ce que les penseurs critiques de la technique reprochent à toutes ces machineries qui, de fait, satisfont un besoin, mais créent aussi soit une dépendance et créent également des désagréments qui, au départ, n'avaient pas été pensés. Donc je reprends. Ce nouvel outil ne crée que des besoins qu'il peut satisfaire, au lieu que chaque accroissement de l'accélération produit par des véhicules à moteur crée de nouvelles exigences de temps et d'espace. Le roulement à billes et les pneus permettent à l'homme d'instaurer un nouveau rapport entre son temps de vie et son espace de vie, entre son propre territoire et le rythme de son être, sans usurper l'espace-temps et le rythme biologique d'autrui. Ces avantages d'un mode de déplacement moderne fondé sur la force individuelle sont évidents et pourtant, en général, on les ignore. On ne se sert du roulement à billes que pour produire des machines plus puissantes. On avance toujours l'idée qu'un moyen de transport est d'autant meilleur qu'il roule plus vite, mais on se dispense de le prouver. La raison en est que si l'on cherchait à démontrer la chose, on découvrirait qu'il n'en est rien aujourd'hui. La proposition contraire est en vérité facile à établir. À présent, on accepte son contenu avec réticence, mais demain, elle deviendra évidente. Eh oui, c'est contre-productif, tous ces véhicules à moteur. Le vélo, bon, toujours pas assisté par moteur électrique, et donc par batterie, comme outil strictement nécessaire aux besoins qu'il est censé satisfaire, ni plus ni moins. Alors ben, merci. Merci Le Mans Ma Ville, rebaptisé au Le Mans, pour toutes ces pages sur le vélo. Seulement voilà, quand on retourne le magazine en quatrième de couverture, pleine page, une publicité pour l'exhibition des motos qui vont gaspiller des ressources pétrolières et polluer notre milieu de vie, lors non pas des 24 heures qui ont lieu du 18 au 21 avril, 24 heures moto, oui. D'ailleurs, il y a eu tout un débat dans la presse sur les différentes nuisances qui ont lieu autour du circuit, mais celles que vous entendrez bien, ce sont celles qui sont présentes sur le circuit. Les moteurs survitaminés qui vont faire du bruit pendant 24 heures, ça n'a pas du tout été remis en question. Par exemple, la pollution, l'agglomération d'un certain nombre de personnes, tout ça non plus. Mais là, c'est pire, c'est encore pour autre chose. Cette publicité pleine page, c'est pour le Grand Prix de France qui aura lieu les 10, 11 et 12 mai. Et c'est gratuit. Pour les moins de 16 ans accompagnés d'un adulte, le visuel pleine page est l'occasion de faire de la pub pour Michelin, pour les pneumatiques donc, pour Motul, mais aussi pour Canal+ et RMC, Oh là là, ça fait un petit peu peur au niveau médiatique, là. Le Grand Prix de France Moto est organisé par une entreprise, PHA Claude Michi, en association avec une association, l'Automobile Club de l'Ouest. La CO, dont le budget est de 20 millions d'euros environ, est toujours une association de défense des automobilistes. On a une chance pas possible, le Grand Prix de France a été négocié jusqu'en 2026 au Mans. Donc à moins d'une prise de conscience des organisateurs ou une opposition forte des populations, pendant 3 sessions encore, le circuit du Mans accueillera cette course à la vitesse. Une course parmi d'autres, puisque, on l'a dit, du 18 au 21 avril, ont lieu les 24 heures du Mans Moto. Une autre course qui rapporte, génère des revenus importants, surtout pour les organisateurs, mais à quel prix ? Beaucoup de bruit et de fureur, aurait dit un certain Shakespeare. Mais pour le Grand Prix, des dizaines de milliers de personnes venues en moto de toute l'Europe, des équipes transportant le matériel, des véhicules et tutti quanti, venues aussi du reste du monde, quelques avions, moins que pour les 24 heures voiture, mais quand même, soit beaucoup de pollution et d'énergie dissipée dans notre atmosphère. Ajoutons à cela les nuisances sonores pour les habitants de l'agglomération mancelle en entier, mais aussi la mobilisation des services de la commune, de la communauté de communes, du département et les services de l'État afin de sécuriser, organiser et nettoyer les conséquences de ces événements de promotion du pilotage d'engins rapides fonctionnant aux énergies fossiles. Promouvoir en même temps les mobilités douces et les courses de vitesse, symbole de la violence des valeurs sportives, c'est possible. La preuve, au Mans. Avril 2024. Bon, il faudrait peut-être quand même choisir objectivement ce qui est le meilleur pour la population et pas simplement ce qui est le meilleur pour la croissance du PIB. Merci d'avance. On va se quitter, mais avant ça, vous annoncez que ce week-end, pour les auditeurs du direct, nous voulions vous informer d'une initiative heureuse, en l'occurrence un forum pour unir les luttes écologiques. Ça a lieu au lieu dit le Bapaluo, P-A-2-L-U-A-U, à la chapelle Saint-Aubin, près d'Auchan. On y retrouvera un certain nombre d'associations qui se présentent, mais surtout ont pour but de se retrouver pour essayer de voir comment agir ensemble. Que ce soit Greenpeace, le groupe national de surveillance des arbres, le temps des mairies, la confédération paysanne, Terre de Liens, etc., etc. Donc ça a commencé vendredi 19 et ça se poursuit samedi 20 et dimanche 21. Samedi 20, à partir de 14h, organiser la ville cyclable avec l'association Arnage en vélo. Convaincre l'Homo sapiens avec Florence Gibert, 16h témoignage de lutte, un apéro débrief et une soirée effective festive en musique avec Pape G et dimanche de 10h30 jusqu'à la pause méridienne, je dirais, intelligence collective, la sociocratie avec Anne-Frédérique Grignon. Intelligence collective, la sociocratie, dimanche 10h30. On vous rappelle que ça a lieu donc au Bapaluo, à La Chapelle Saint-Aubin, histoire d'unir les luttes écologiques qui en ont bien besoin d'être unies, mais surtout d'être menées. Lundi 22 avril, justement, rassemblement place de la mairie, place Saint-Pierre à la mairie du Mans à 13h, lundi 22 avril à 13h. Pourquoi ? Eh bien, un rassemblement pour une remise de pétition pour la défense des arbres de l'avenue Bollé et du reste des chronolignes. Des signatures en vrai et en ligne. Plus de 9000 personnes sont pour chercher une alternative au tracé des chronolignes qui amène l'abattage de centaines d'arbres avenue Bollé et ailleurs. Eh, si les 9000 pouvaient venir lundi 22 avril, place de la mairie du Mans, c'est la place Saint-Pierre, à 13h, en soutien à ceux qui vont déposer des pétitions, ce serait historique. Le collectif qui défend les arbres en question, mais aussi une certaine idée de la ville et de ses aménagements, se réunit également jeudi 25 avril à 18h. C'est ouvert au public à la Maison des citoyens citoyennes, place des Comptes du Maine. Contact collectif-arbre-bollé@anche.no. Mercredi 24 avril, réunion du collectif contre les entrepôts Amazon et ceux qui ont la même vocation avec des noms différents. Ça se passe également à la Maison des citoyens citoyennes, place des Comptes du Maine à 18h30. Et également, pour commémorer le début de la catastrophe de Tchernobyl le 26 avril 1986, des manifestations et actions ont lieu des 25 au 28 avril dans toute la France. Et pour Le Mans, eh ben c'est le 26 avril, rassemblement avec banderoles, table d'infos, distribution de tracts à partir de 16h30 place de la République. Pour en savoir un peu plus, sortir du nucléaire 72, sdn72.org. Et puis, ben, il se passe plein d'autres choses. N'hésitez pas à aller voir sur Sarthe. www.demosphere.org. Et nous, ben là, avant de nous épuiser totalement, on va vous dire tout simplement, allez, au revoir. Mm-hmm.